Bonsoir. Nomination jeudi dernier par le chef de l'État, des commissaires spéciaux et leurs adjoints chargés d'administrer provisoirement les nouvelles provinces. Selon l'ordonnance, il s'agit d'un cas de force majeure vu l'impossibilité d'organiser dans les délais légaux et constitutionnels l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. En réaction, l'opposition qualifie cet acte de violation flagrante de la Constitution. Quelle lecture faire de ces nominations? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 2 novembre 2015. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Eric Bilalé, cadre du MLC et assistant au secrétariat national à la formation et à l'idéologie du parti. Maître Bilalé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Et André Alain Atundou-Liongo qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est porte-parole du secrétariat général de la majorité présidentielle. Il est président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR en sigle. Merci de nous suivre partenaire RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Avant de nous lancer dans notre débat de ce soir, vous le savez certainement, le professeur Philippe Guillot est un de nos experts qui intervenait souvent dans le dialogue entre Congolais, décédé vendredi dernier à Kinshasa, de suite des maladies. Nous tenons à lui rendre hommage à travers l'émission de ce soir, au nom de Radio Okapi. Un extrait de son intervention dans le magazine DEC vous sera proposé à la fin de notre débat de ce soir. Je l'ai dit, le président de la République, Joseph Kabila, a nommé le 29 octobre dernier les commissaires spéciaux qui devront diriger les nouvelles provinces issues du démembrement. Cette nomination suscite des réactions diverses à travers le pays. Béry Louchaka revient sur quelques-unes dans ce reportage.
Dans l'ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale, on parle d'une mesure transitoire exceptionnelle visant à pallier la carence des gouverneurs et vice-gouverneurs et assurer ainsi la continuité et le maintien des pouvoirs publics, faire régner l'ordre et la sécurité dans les nouvelles provinces. Dans la foulée, les réactions ne se sont pas fait attendre. D'abord, le réseau national des ONG pour le développement de la femme en RDC, RENADEF en sigle. Cette organisation félicite le chef de l'État d'avoir nommé une dizaine de femmes parmi les commissaires spéciaux qui doivent administrer les nouvelles provinces. Cependant, affirme la coordinatrice de cette ONG, la représentativité de la femme au niveau de ces nouvelles entités ne respecte pas le quota reconnu à la femme pour sa participation dans les institutions politiques du pays. Une autre réaction, c'est celle des députés nationaux élus de la province de la Mongala. Eux désapprouvent carrément le choix porté sur les nouveaux autorités de leur province. En cause, la nomination, selon eux, des autorités aux origines douteuses et sans expertise. Et puis, les élus du Sud-Ubangi ont déploré dans un point de presse la discrimination des populations de ce coin de la République. Norbert Eolo Eoni, leur représentant, remet en cause le principe de cohésion nationale. Parmi les toutes dernières réactions enregistrées jusqu'ici, il y a celle de la Ligue contre la corruption et la fraude, LICOF en sigle. Cette ONG se dit très préoccupée par la confiscation pure et simple du pouvoir de Kinshasa qui apparaît avec la nomination des commissaires spéciaux, tous issus de la majorité au pouvoir. Selon cette structure, le chef de l'État semble avoir utilisé des critères purement clientélistes en procédant à ses nominations.
Merci Béry Louchaka pour ce reportage. La réalisation me signale que André Alain Atundou est en ligne. Monsieur Atundou, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes porte-parole du secrétariat général de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR en sigle. Quelle lecture vous faites de ces nominations des commissaires spéciaux pour les nouvelles provinces?
Ces nominations participent, je crois, du devoir républicain du chef de l'État de veiller au bon fonctionnement des institutions et à la bonne administration du territoire et de la démocratie. Souvenez-vous, le gouvernement avait introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander son avis si la nomination éventuelle des commissaires spéciaux aujourd'hui pour diriger les provinces était conforme à l'esprit et à la logique de la Constitution de notre pays. Après étude, la Cour constitutionnelle a répondu à cette requête par un arrêt qui dit que, effectivement, c'est dans la logique de la Constitution. Si le gouvernement a des problèmes de quelque nature ce soit pour l'élection des gouverneurs, eh bien la désignation des commissaires spéciaux est tout à fait dans la logique de notre Constitution. C'est dans ce cadre-là que le chef de l'État a pris la décision de nommer ses commissaires spéciaux en vue d'assurer la bonne administration et surtout la présence de l'autorité de l'État dans ces nouvelles entités. Donc c'est un acte républicain, ce n'est pas un acte partisan. Alors, lorsque on nomme, en nommant ces commissaires spéciaux, le chef de l'État ne remet pas en cause les principes qui dirigent notre démocratie, à savoir la majorité, c'est la majorité, l'opposition, c'est l'opposition, n'est-ce pas? Et que dans la gestion de la République, eh bien, le mandat a été donné à la majorité pendant 5 ans de gérer. Alors c'est à la majorité de voir, selon les circonstances, si il peut associer, si elle peut associer d'autres forces politiques ou pas. Comme dans le gouvernement, nous avons un gouvernement de cohésion nationale, parce que le chef de l'État avait jugé nécessaire pour la cohésion nationale d'associer d'autres partenaires de l'opposition. Eh bien, ici, il s'agit des fonctionnaires de la République. Il ne s'agit pas des membres de la majorité présidentielle. Mais pourquoi n'ont-ils pas réagi de la même façon au niveau des gouverneurs? Parce que les gouverneurs sont tous de la majorité. Et donc, ils remplissent plutôt une fonction républicaine exigée par les principes qui régissent notre démocratie.
Et donc pour, là, vous, monsieur André Alain Toundou, la nomination de ces commissaires spéciaux n'est pas une violation de la Constitution, contrairement à ce que l'opposition dénonce?
Non, ce n'est pas une violation de la Constitution. Je vous ai dit préalablement, une requête a été adressée à la Cour suprême pour avoir son avis sur la constitutionnalité d'un tel acte que le gouvernement pourrait poser. Eh bien, la réponse de la Cour suprême par arrêt, de la Cour constitutionnelle par arrêt, dit que c'est tout à fait constitutionnel. C'est dans la logique de la Constitution.
Et comment le pays va fonctionner avec...
Pardon?
Et comment le pays va fonctionner avec d'un côté des commissaires spéciaux et de l'autre côté avec des gouverneurs des provinces?
Ce ne sont pas des travaux contradictoires, ils ne font pas des devoirs contradictoires. Le commissaire spécial gère la province, le gouverneur gère la province. La seule différence, c'est que le gouverneur a été élu et le commissaire a été désigné.
Est-ce que les commissaires
dépendent du ministre de l'Intérieur, tous dépendent du chef de l'État.
Est-ce que les assemblées provinciales auront le droit de contrôle sur ces commissaires nommés par le chef de l'État?
Pourquoi pas? Est-ce que les assemblées nationales n'ont pas droit d'appeler les ministres qui ont été nommés par le chef de l'État? Il ne faut pas faire de mauvais procès, ça fait nous distraire. Les assemblées provinciales exécutent leurs devoirs et leurs prérogatives constitutionnelles. C'est de contrôler la personne et les institutions qui gèrent les provinces, au niveau national, qui gèrent les institutions. Donc, qu'ils soient désignés, qu'ils soient élus, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement normal des institutions. Quant à ceux tout au moins.
Alors, la conférence de gouverneurs, on sait qu'elle se déroule plus ou moins 2 fois à l'an. Est-ce qu'elle va continuer avec d'un côté les gouverneurs et de l'autre les commissaires spéciaux?
Madame, il y a un principe de droit qui dit que la nature juridique d'un texte ou d'un acte ne se limite pas à l'intitulé du texte ou de l'acte. C'est-à-dire, pour savoir exactement quelle est la nature juridique du commissaire spécial, il faut voir qu'est-ce qu'il est appelé à faire. Est-ce que ce qu'il est appelé à faire est différent de ce que fait un gouverneur? Si, en toute hypothèse, ils sont appelés dans la réunion de gouverneurs. N'a-t-on pas déjà vu des invités spéciaux à des réunions, par exemple, interinstitutionnelles, à des réunions de gouvernement? L'essentiel, c'est de rechercher la bonne administration du pays et le fonctionnement harmonieux des institutions. Tout le reste, c'est l'expression de frustration personnelle. Peut-être aurait-il voulu, ces gens-là, que ceci arrive après le dialogue et qu'ils en aient parlé au dialogue pour avoir aussi leur part dans cette distribution de responsabilités.
Mais aujourd'hui, merci.
C'est la logique constitutionnelle pure qui joue.
Merci André-Alain Tundou. Maître Eric Bilalé, je rappelle que vous êtes cadre du MSC, assistant au secrétariat national à la formation et à l'idéologie du parti. Quelle est votre lecture ou votre analyse à vous par rapport à ces nominations?
Oui, merci madame. Je voudrais préciser, chemin faisant, à monsieur l'ambassadeur Atundu, pour qui j'ai beaucoup de considération, que l'approche par lui adoptée et par la majorité présidentielle est une approche totalement en déphasage avec un état de droit. C'est vraiment une approche de la jungle. On veut nous exposer dans une situation d'inconstitutionnalité qui n'a pas de nom. Cette ordonnance, madame, viole la Constitution à bien des égards.
Vous avez suivi M. Atundu qui dit qu'il n'y a pas de la fin de la Constitution.
L'approche de l'ambassadeur Atundu, pour qui j'ai beaucoup de considération, n'est pas une approche qui cadre avec la logique de la Constitution. En fait, dans un état de droit, on ne peut pas faire des choses en dehors de la Constitution. Tout s'est fait conformément au texte qui nous régissent, les lois de la République. Et en première loge, c'est la Constitution. Je voudrais dire ceci. Cette ordonnance viole la Constitution précisément dans ses articles 195, 196 et suivants. Et la tare d'inconstitutionnalité dont est porteuse cette ordonnance portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints a d'autant gravissime qu'alors qu'au regard de dispositions de l'article 220 de la Constitution, alinéa 2, où est clairement dit qu'est formellement interdite toute forme de révision constitutionnelle tendant à réduire, n'est-ce pas, le prérogative des provinces et des entités territoriales décentralisées, in fine, de cette disposition, n'est-ce pas, cette ordonnance vient exactement contrevenir vigoureusement au bloc de constitutionnalité, à telle enseigne que le régionalisme constitutionnel qui expose l'État congolais au regard de la Constitution du 8 février 2006 dans un antichambre du fédéralisme, à proprement parler, dans un fédéralisme inachevé. Et la décentralisation administrative dans les cadres des entités territoriales décentralisées qui sont constitutives des éléments structurants et des options fondamentales optées par la Constitution du 8 février 2006 viennent d'être charcutées par l'autorité qui est présumée protéger la Constitution. Je veux dire, le président de la République, pour qui nous avons beaucoup de considération, en instituant un système.
C'est le président ou c'est la Cour, puisque une requête avait été introduite
par le gouvernement. Merci, madame, de votre question. Certainement que la Cour constitutionnelle a été consultée par la CNI par rapport à l'impossibilité alléguée par celle-ci. La Cour a demandé au gouvernement, certainement que l'arrêt de la Cour est susceptible de beaucoup de critiques, être sujet à caution à bien des égards, cet arrêt qui n'a pas défini ce qu'elle entend c'est que la Cour attend par la force majeure, n'est-ce pas, a demandé au gouvernement de prendre des mesures transitoires exceptionnelles sans en donner l'essence. C'est dans cette logique que le mouvement de libération du Congo, je veux dire, Madame Eve Bazaïba, la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, par nous assister à la Cour constitutionnelle, a introduit un recours en interprétation de l'arrêt. Et la Cour n'a jamais interprété son arrêt pour en donner les vrais sens, pour éviter que le gouvernement fasse ce qu'il fait aujourd'hui en cherchant, en vertu d'une certaine théorie abusive, des alternatives, un sens qui lui convient pour conférer à cet énoncé de l'arrêt de la Cour, mesures transitoires exceptionnelles. Ces mesures transitoires exceptionnelles ne voudraient pas dire que le gouvernement aille au-delà, ou le président de la République, de la Constitution. Ça voudrait simplement dire que l'on doit tenir compte, par exemple, parce que le député provincial de Nouvelle Province n'était pas dans le mandat. Ils sont au-delà de leur mandat. C'est exceptionnellement qu'ils devraient organiser leur bureau provisoire et faire élire le gouverneur. Et par exemple, ils ont déposé de règlements intérieurs de leurs assemblées provinciales qui ont été examinées par la Cour. J'ai assisté à certains de ces travaux. Certainement, c'est trop vrai. Lorsque le ministre de l'Intérieur interdit à une assemblée provinciale de convoquer une session ordinaire, c'est déjà quelque chose de très peu recommandable dans un état de droit. Comme pour dire que la Cour constitutionnelle n'a jamais dit au gouvernement de nommer les commissaires spéciaux, et dire que c'est la Cour qui a enjoint au gouvernement de nommer les commissaires spéciaux serait d'autant plus une aberration du point de vue juridique qu'une absurdité du point de vue sociologique. Je voudrais dire, madame, permettez que
c'est
je
donc dise la majorité a interprété à sa manière
La décision de la Cour. Ça n'a rien à voir avec la nomination des commissaires spéciaux. Je voudrais plutôt marteler sur le fait que cette nomination, n'est-ce pas, crée, n'est-ce pas, un système en même temps prétaire et contrat constitutionnel. C'est-à-dire quoi? Un système comme par enchantement juridique contradictoire et inacceptable. D'une part, comme vous l'avez soulevé, les commissaires spéciaux qui n'ont pas des statuts juridiques, qui sont créés en toute pièce par une ordonnance inconstitutionnelle, et de l'autre, n'est-ce pas, le gouverneur qui ont des compétences constitutionnellement reconnues et qui sont élus par les députés provinciaux. Et in casus specie, nous allons nous retrouver dans une situation chaotique du point de vue de droit.
Merci.
Où les assemblées provinciales ne seront pas à même de contrôler ces fameux commissaires spéciaux.
Merci.
Controversés, madame.
Merci, maître Eric Bilalé. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, quelle est votre lecture à vous par rapport à cette situation?
Merci beaucoup. La problématique des nominations de commissaires spéciaux amène évidemment à repenser et à scruter le rapport entre les institutions politiques, les différents acteurs politiques, les rapports qu'ils entretiennent avec les textes qui régissent le pays. Cette problématique pose également la question même du projet démocratique de la RDC. Parce que ce projet a déjà réglé la question de la dévolution du pouvoir politique. Je voudrais aborder cette question en traitant de deux points. Le premier point, c'est l'accès au pouvoir à tous les niveaux. Et la deuxième, c'est la sortie du pouvoir. Comment on accède au pouvoir? Je crois que cette question, quand vous voyez la philosophie même de notre constitution, cette question est vraiment réglée. Vous savez que le pouvoir fait rêver. Et sa conquête aiguise les appétits. Et quand on accède régulièrement au pouvoir, eh bien, l'élection draine un concert de satisfaction et même d'émulation. Et notre constitution semblait, de mon point de vue, avoir trouvé une formule appropriée qu'il faut absolument sauvegarder. La philosophie de notre constitution est celle de démocratiser l'accès au pouvoir au niveau provincial et à tous les autres niveaux, n'est-ce pas, de l'État. Et c'est là à travers le mécanisme de la responsabilisation, soit directe, soit indirecte, du souverain primaire. et selon cette constitution, on a trouvé que les autorités chargées de diriger l'État à tous les niveaux doivent tenir leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage, soit direct ou indirect. Alors là, nous avons donc une situation qu'il nous faut retourner à la formule de nomination et qui équivaut donc à une sorte de déresponsabilisation du souverain primaire. Et pourtant, l'on sait bien qu'on est dans un système décentralisé et que l'un des éléments définitionnels de la décentralisation, c'est que les autorités des entités décentralisées ne sont pas nommées, mais elles sont élues par le souverain primaire. Alors maintenant que ce caractère sacré de la décentralisation vient d'être absolument assuré par la nomination, on peut bien se demander si on est encore dans un système décentralisé. Ça pose véritablement un problème de la philosophie même du texte, notre texte sacré. Le deuxième point concerne la sortie du pouvoir. Comment on sort du pouvoir? La sortie du pouvoir répond à l'exigence du respect du calendrier électoral. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques l'horloge électorale. Et la périodicité régulière des consultations électorales est, de mon point de vue, un des éléments nécessaires du projet démocratique congolais. La sortie du pouvoir par nomination, alors que l'on a été élu, a certainement créé des frustrations de la part de ceux de gouverneurs qui étaient élus, mais qui sortent aujourd'hui par le fait qu'il y a des nominations. Et ça ne garantit pas non plus une bonne rotation de l'élite gouvernante, et encore moins, une alternance démocratique qui, de mon point de vue, sont des éléments clés de la crédibilité de notre système démocratique. Et je voudrais terminer par dire que le problème de la terminaison régulière du mandat électif reste posé. Comment on termine un mandat électif? Il me semble bien que les pratiques que l'on est en train de consacrer sont dangereuses par rapport au projet démocratique de la RDC.
Et là, il y a violation de la Constitution, professeur Félicien Kabamba. Si je suis vos analyses, la RDC va se retrouver avec une administration à la fois avec des dirigeants provinciaux et élus et d'autres nommés.
Mais on n'est plus dans la philosophie du texte. On en est sorti. Quand il est vrai que le principe même de la décentralisation sur lequel, parce que de nombreuses personnes, moi en particulier, j'ai apporté ma voix à ce texte, entre parce qu'il avait institué un mécanisme de décentralisation. Et donc, aujourd'hui, je ne me retrouve plus. Les pratiques sont quasiment en dehors de la philosophie même du texte. Et ça, il me semble bien que c'est un danger par rapport au projet démocratique. C'est un projet que tous, nous avions appuyé, et nous pensons que ce texte devait nous amener à un développement politique adapté à la situation de Congolais.
Et puisque la CENI n'a pas les moyens d'organiser l'élection des gouverneurs pour les nouvelles provinces, qu'est-ce que le gouvernement devait faire pour combler ce vide?
Les élections, de mon point de vue, en fait, d'après ce que la CENI a annoncé, les élections coûtaient 2 millions de dollars. Et je ne sais pas si le gouvernement manque 2 millions de dollars. Mais aussi, une autre question qu'on peut se poser, est-ce que l'élection de gouverneur, son coût réel, c'est 2 millions de dollars? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas là une surévaluation du coût? Il me semble bien qu'il était possible d'organiser les élections du gouverneur. Probablement qu'il y a d'autres aspects qui ont fait qu'en fait, on ait choisi de ne pas les organiser. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans la caisse de l'État. Est-ce que véritablement les 2 millions de dollars ont manqué? Ça, ce sont des questions que l'on peut se poser. Mais on est là devant un fait que les commissaires spéciaux ont été nommés. Et aujourd'hui qu'ils sont nommés, on revient vers la philosophie du texte pour voir si véritablement il y a là un fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, où on en est sorti.
Merci, professeur Félicien Kabamba, ambassadeur André Alain Atundu. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemie.
Floribert Mukebo, depuis Kalemie, dans la province du Tanganyika. La majorité présidentielle est en train de faire un atterrissage forcé. Toutes les mises en œuvre pour ne pas respecter la Constitution. L'autorité morale de la majorité doit à tout prix faire preuve de patriotisme pour sauvegarder sa personnalité et sa dignité. Au contraire de là, il retourne le pays dans le régime dictatorial de la démocratie et il doit défendre sa renommée, que la nation s'en souvienne de lui à perpétuité. Mieux vaut mourir qu'être déshonoré, dit-on.
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne. Ambassadeur André Alatoun Doskov, vous avez subi la préoccupation de cet auditeur qui nous écrit des calémies.
Je crois, malgré la ligne qui n'est pas bonne, sa préoccupation essentielle, il a dit, il a l'impression que l'autorité morale vise à violer la Constitution et il lui recommande de respecter la Constitution.
Il n'a pas l'impression, la majorité présidentielle est en train de faire un atterrissage forcé, tout est mis en œuvre selon lui et bien orchestré pour ne pas respecter la Constitution.
Mais c'est ça que je dis. Mais ça c'est une impression infondée parce que le chef de l'État agit justement sur base de la Constitution qui donne au chef de l'État l'obligation que chaque acte qu'il pose réponde à la fois aux termes de la Constitution, aux lettres, à l'esprit et à la logique de la Constitution. Voilà pourquoi, avant de poser cet acte, il a demandé l'avis de la Cour, de la Cour constitutionnelle. Et c'est conformément à l'avis de la Cour constitutionnelle qu'il agit. Et lorsque
Maître Bilalé,
dit que la Cour enjoint à la...
Au gouvernement
enjoint,
de prendre...
La Cour n'enjoint pas. La Cour donne un avis, un arrêté. La Cour n'enjoint pas. Parce que l'avis du gouvernement, la requête du gouvernement, ne visait pas à demander à la Cour, est-ce que je dois faire ceci? Vous devez le faire. Non. Est-ce que je peux? Est-ce que si je pose tel acte, je suis dans la logique de la Constitution? Ça, c'est de un. Deuxièmement, si vous me permettez, lorsque Maître parle de l'approche de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et si le président était le plus fort, il n'allait pas demander à la Cour suprême. Donc c'est tout à fait dans la logique de notre structure.
Mais à quel moment, Monsieur Atundu, ambassadeur Atundu, la Cour a demandé, a donné un avis favorable par rapport à la requête de la majorité demandant...
La Cour ne donne pas un avis favorable. La Cour donne un avis dans la logique de la Constitution. C'est les gens, les uns et les autres qui disent ceci n'est favorable, ceci ne m'est pas favorable. La Cour n'est pas là pour plaire. La Cour est là pour dire le droit, la logique de la loi. Ça peut vous arranger, ça peut ne pas vous arranger. Ça c'est de un. Deux, on a parlé du statut juridique des commissaires qui n'en ont pas. Non, un statut juridique c'est quoi? C'est une situation juridiquement protégée. C'est-à-dire qu'il est... il est fondé à poser des actes à partir des dispositions légales. Donc ça, c'est tout à fait normal. Alors, les mesures exceptionnelles, ce n'est pas à lui de déterminer les mesures exceptionnelles. C'est au gouvernement de comprendre, tiens, les mesures exceptionnelles, c'est ceci ou c'est cela.
Parce que, et donc, pour vous, les mesures exceptionnelles, pour vous, c'est la nomination de ces commissaires.
C'est l'interprétation de la Cour suprême.
D'accord. Alors, il y a le professeur Félicien Kabamba qui estime que ces nominations n'est plus dans la philosophie du texte de la Constitution.
Le professeur Kabamba, un professeur respectable, n'est-ce pas? Il doit savoir que dans une Constitution, eh bien, la Cour constitutionnelle a un rôle. A un rôle. Et donc, les textes, si les textes devaient être appliqués automatiquement, il n'y aurait plus de jurisprudence, il n'y aurait plus d'avocats, il n'y aurait même peut-être plus de professeurs de droit. La Constitution, dans ses applications concrètes, exige parfois qu'on se réfère à la Cour constitutionnelle pour savoir si tel acte répond à la logique. Eh bien, c'est le cas ici.
Mais la Cour, ma question,
la Cour constitutionnelle a donné son avis et le gouvernement et le chef de l'État ont agi en conséquence.
Monsieur l'ambassadeur Atundu, vous dites que la Cour constitutionnelle a donné son avis. C'était quoi cet avis de la Cour constitutionnelle?
Ah bon, vous organisez le débat sans connaître
non, dites-nous, parce que
l'avis de la Cour constitutionnelle.
Parce que nous savons que c'est la CENI qui avait introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle, et la Cour enjoint au gouvernement de prendre des dispositions transitoires exceptionnelles. Vous nous parlez du gouvernement.
La Cour donne un avis. La Cour n'est pas, comment dirais-je, la Cour est une autorité de consultation et de référence. Il dit, vous pouvez faire ceci compte tenu de cela. Il ne dit pas, vous devez le faire. Parce que le gouvernement n'a pas demandé, est-ce que je dois le faire?
Merci,
est-ce
monsieur.
Que je peux le faire?
Merci, monsieur l'ambassadeur Atundu.
Ah, et puis, je voudrais quand même dire un mot.
Je veux vous redonner.
Le professeur a parlé de la terminaison du mandat électif. N'est-ce pas? Mais la terminaison du mandat électif passe par les élections. Et en cette matière, aujourd'hui, il y a un consensus au sein de la classe politique, opposition, majorité et même de la société civile, à savoir qu'il faut enrôler les nouveaux majors, qu'il faut
mettre
un fichier électoral,
ce
qui signifie en clair qu'il faut organiser le recensement.
Merci, ambassadeur André Alain Atundu, maître Eric Bilalé. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud-Kivu.
Wabula Saondeni, de Bukavu, Sud-Kivu. L'opposition congolaise commence à étonner les gens, d'autant plus que elle voit que le Congo est toujours noir. Mais ce qu'il fallait se demander, si le Congo est le premier pays du monde en difficulté d'organiser les élections qui appliquent le système des commissaires généraux. Et si c'est notre initiative, il faut donc féliciter le gouvernement congolais qui montre à la face du monde que nous sommes capables de donner un modèle à suivre en cas de manque de moyens.
Réaction.
Oui. Merci, madame. Obiter Dictum, je voudrais remercier votre vigilance. Avant de réagir par rapport aux propos du monsieur de Bukavu, je voudrais quand même préciser, parce que on doit faire par moment des choses en rejetant de l'école du parfait juriste, parce qu'on est habitué des arcanes judiciaires, des arcanes de droit constitutionnel jurisprudentiel. Je voudrais préciser que la Cour constitutionnelle ne peut pas agir par voie d'avis. Ça n'est pas prévu, que ce soit par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour, que ce soit au regard de son règlement intérieur. Et parce que je mène une procédure devant la Cour constitutionnelle, je vous précise que la Cour n'agit que par voie d'arrêt. Elle ne peut pas agir autrement. Deuxièmement, la requête, n'est-ce pas, a été introduite, comme vous l'avez dit, par la CNI, et la Cour a agi par voie d'arrêt. À travers cet arrêt, parce que la Cour, dans sa fonction de réguler la société politique, peut enjoindre certaines obligations à une institution conformément à la Constitution. Et c'est la Cour qui a enjoint au gouvernement de prendre les mesures transitoires exceptionnelles. Et c'est un arrêt sur lequel je travaille et dont je fais un discours, un métadiscours. Je voudrais en outre préciser, madame, parce que c'est très important pour la société, que la nomination des commissaires spéciaux n'est relève pas de la Constitution, c'est une invention. Et cette caricature juridique des bas étages, nous la détestons parce que c'est inconstitutionnel. Vous verrez que ces gens-là auront la mainmise sur les finances publiques. Parce qu'il y a déjà un commissaire spécial adjoint chargé des finances publiques, n'est-ce pas? Et ils auront la mainmise sur les finances publiques. Et parce que cette gestion sera pratiquement opaque, on ne saura pas contrôler les mécanismes de gestion. C'est en fait l'institutionnalisation de la prévarication pure et simple d'une république bananière qui vient d'être instituée par les présidents de la République, pour qui par ailleurs nous avons beaucoup de considération. Cette approche, n'est-ce pas, n'honore pas un état de droit. C'est vraiment quelque chose qui va nous conduire droit vers le chaos. Et c'est pourquoi, en attendant, madame, je veux revenir sur l'intervention de monsieur, le mouvement de libération du Congo, on appelle à la vigilance de la population. Et nous demandons à tout citoyen bien averti de lire attentivement l'exposé des motifs de la Constitution et l'article 64. Parce que nous nous approchons de plus en plus vers un chaos constitutionnel. Et je voudrais revenir sur l'intervention du monsieur pour dire qu'on ne peut pas se réjouir de la violation de la Constitution. Certainement que la République démocratique du Congo n'est pas parfaite en termes d'usage de la démocratie. Mais on ne peut pas suivre le mauvais exemple. On ne peut pas jouer le rôle d'inventeur de mauvais goût, comme parce qu'il invoque le fait qu'on doit donner l'image au monde que nous pouvons inventer en cas de blocus. Est-ce qu'il y a eu blocus? Est-ce qu'il y a eu blocage? Il n'y a pas eu blocage. C'est l'intention orchestrée par le gouvernement de ne pas organiser les élections, parce que l'argent existe. Quand vous surfacturez, par exemple, l'achat des Airbus, n'est-ce pas, de 7 millions de dollars, vous dites que vous avez acheté à 24 millions. Quand vous construisez un soi-disant, entre guillemets, immeuble intelligent de 30 millions, vous dites 72 millions de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Et pour organiser l'élection de gouverneur, c'est seulement 200 000 dollars au maximum, madame. Parce qu'on ne pourra que photocopier et imprimer de papier. Ça coûte combien à la République? Et la nomination de ces commissaires spéciaux coûte plus à la République que l'organisation des élections,
merci,
madame.
Maître que, Eric
merci,
Bilali.
Merci, madame. On va continuer.
On va continuer, professeur. Il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Mbujimayi.
Serge Kadeya, depuis la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental. Cette nomination constitue un recul démocratique, ce qui est une honte aux yeux du monde entier. Les députés sont minimisés car leur pouvoir est réduit à néant. C'est le retour de la dictature au Congo, comme il en était le cas en 1970 avec Mobutu. Les poussières, entre guillemets, vont tout faire au nom de leur mandataire, sans faire ni crainte, puisque les députés ne les contrôleront jamais et n'ont aucun pouvoir sur eux. Où sommes-nous avec la démocratie? En progression ou en régression?
Comment répondre à cet auditeur, professeur?
Non, mais je crois que l'intervenant tout à l'heure est carrément dans la logique d'une lecture assez correcte de la Constitution. En principe, le système de décentralisation dans lequel on est ne pouvait plus permettre les nominations. Parce que c'est un système qui a responsabilisé les gouvernés. C'est le gouverné qui, de manière indirecte, devait désigner les gouverneurs. Alors aujourd'hui, est-ce qu'un recul, est-ce qu'une avancée? Je crois que tout observateur averti verra qu'il y a là un mouvement vers le recul. Et donc, il faudra certainement, et ça c'est peut-être une recommandation, il faudra certainement procéder à une élection rapide. Les nominations sont déjà là, mais il faudra penser à une élection rapide de gouverneur de nouvelles provinces pour éviter évidemment que le mécanisme d'élection devienne le principe sur lequel la démocratie congolaise repose.
Alors, une élection rapide des nouveaux gouverneurs des provinces dans un délai de combien de temps, professeur Félicien Kabamba?
Je n'ai pas de délai à donner, mais je crois que pour éviter que le système de nomination, parce que c'est un système qui ne correspond plus à la philosophie de nos textes, il faut absolument que dans un très bref délai, avant la fin de l'année, de mon point de vue, qu'il y ait l'élection de nouveaux gouverneurs. Et ça, c'est l'unique manière pour nous de rester en phase avec nos textes, avec les textes qui régissent notre pays.
Et si le problème d'argent continue à se poser, qu'est-ce qu'on va faire, professeur?
Non, je ne crois pas que le problème soit véritablement un problème d'argent. Les élections qui coûtent cher sont des élections générales, des élections à la base. Mais les élections au suffrage indirect, généralement, ne coûtent pas cher. Il suffit de réunir, parce que la plupart des assemblées comptent tantôt une vingtaine de députés, tantôt même moins de 20, trentaine. Je ne crois pas qu'une telle élection, l'organiser, coûte nécessairement cher à la République. Il me semble bien que le problème qui se pose n'est pas celui de l'argent.
Et ça pourrait être lié à quoi, selon vous, professeur?
Non, mais je crois qu'il y a là une horlogerie qui est propre à la majorité qui aurait probablement dicté la marche à suivre.
Merci, professeur Félicien Kabamba. André Alain Atundu, il faudra organiser les élections de nouveaux gouverneurs rapidement.
Mais la nomination est une mesure exceptionnelle sur la base de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et donc, cette mesure exceptionnelle, dont on n'a pas limité la durée, eh bien, dépendra de l'appréciation de l'évolution sur le terrain. Et finalement, de l'appréciation du chef de l'État qui est le garant constitutionnel. Ça, c'est tout à fait normal. Nous devons apprendre à respecter nos institutions et leurs avis, même quand ces avis ne nous plaisent pas. C'est ça aussi en état de droit. La Constitution n'a pas été violée. Parce que l'acte repose sur un arrêt de la Cour constitutionnelle, et donc c'est ça qui donne la légitimité constitutionnelle à cet acte.
En conclusion,
c'est un débat, on risque de devenir un débat académique, etc. La réalité des faits est là. C'est ça ?
Merci.
La Constitution n'a pas été violée. Celui qui est nommé a le droit de le faire.
Merci.
Sur la base de l'arrêt, etc. C'est tout à fait normal. Le MLC doit attendre la réponse de la Cour constitutionnelle à sa requête avant de penser que son avis s'impose à l'avis par rapport à l'avis de la Cour suprême.
Merci André Alain Atundu. Nous considérons cela comme votre conclusion. Maître Éric Billet, vous allez devoir conclure aussi. Aussi, je voulais dire, pour le professeur, il faut organiser rapidement l'élection des nouveaux gouverneurs.
Le MLC pense que cette nomination, n'est-ce pas, est inconstitutionnelle. Et elle demande à tous les députés provinciaux de ne pas reconnaître, n'est-ce pas, ces commissaires spéciaux. Le mouvement de libération du Congo exige l'organisation rapide des élections, de l'élection de gouverneur pour les nouvelles provinces. Et on en profite pour demander, parce qu'il y a déjà une séance de distribution des exposés des motifs et de l'article 64 de la Constitution.
Merci.
Au peuple congolais, aux citoyens qui lisent et qui comprennent les choses.
Merci, Maître Éric Bilalé, professeur Félicien Kabamba. Un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, je préconise que l'élection de gouverneur des entités, donc de nouvelles provinces, soit rapidement organisée.
Merci, professeur Félicien Kabamba. C'est la fin de cette émission. Mais comme je vous l'ai annoncé, je vais vous laisser suivre un extrait de l'intervention du professeur Philippe Bioya, décédé vendredi dernier à Kinshasa. C'était un de nos intervenants dans les débats politiques. On va vous laisser suivre cet extrait de lui en hommage à ce grand professeur qui nous a quittés. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.
Est-ce qu'il existe une politique générale de sécurité de la RDC, politique nationale, qui en fait revisite ce qu'avait été la politique traditionnelle, si elle a eu lieu du temps de Mobutu, si elle a eu lieu du temps de Kabila père, si elle a eu lieu du temps de 1 plus 4 et consorts? Est-ce que nous avons en fait un concept stratégique? Est-ce que nous savons à quoi nous en tenons et quels sont les problèmes que nous devons gérer, comment les gérer? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où on a signé l'accord cadre d'Addis Abeba, les questions du M23 devraient être placées dans les obligations que l'on a faites au Rwanda et à l'Ouganda de ne plus s'ingérer dans les affaires intérieures. Or, nous donnons l'impression que puisque c'est l'Ouganda et l'Ouganda qui doivent ne plus s'ingérer, même quand ils sont déjà chez nous, quand ils sont déjà été chez nous, que nous n'avons pas d'intelligence à développer pour aider à comment, en fait, faire assumer cette obligation. Parce que la question, les M23, reste liée pour moi à l'ingérence de ce pays dans nos affaires.